Donc, bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast du comité du CRIPCAS, du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles. Je suis animatrice Roxane Guillon, étudiante au doctorat en sexologie à l'UQAM et aussi membre du comité étudiant. Et je suis accompagnée de Francis Morissette-Harvey, qui est aussi candidat au doctorat en psychologie à l'UQAM et qui est lui aussi membre du comité étudiant du CRIPCAS.
Allô?
Donc, aujourd'hui, nous avons sur ce podcast qui portera sur la violence conjugale selon la perspective des hommes. Nous avons deux experts avec nous aujourd'hui, donc sur le sujet. Audrey Brassard, qui est professeure titulaire au département de psychologie à l'Université de Sherbrooke et qui est aussi directrice du laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité. Elle se spécialise notamment dans l'étude de l'attachement et du fonctionnement conjugal des adultes et elle dirige une vaste étude partenariale sur les caractéristiques des auteurs de violences conjugales en partenariat avec l'association À cœur d'homme. Elle est également membre chercheuse du CRIPCAS, de l'équipe SCOOP, Sexualité et couple, et du pôle d'expertise en santé et bien-être des hommes. Donc, bonjour Audrey.
Bonjour, ça me fait plaisir.
Et nous avons aussi Mario Trépanier qui travaille depuis près de 25 ans comme coordonnateur et intervenant à l'organisme Violence, qui est une des 33 ressources québécoises spécialisées dans l'intervention auprès des personnes qui ont des comportements violents en contexte conjugal et familial. Il s'est particulièrement intéressé dans le domaine de la recherche à la question du repérage et de la référence, et de même qu'à la question de l'homicide conjugal. Et plus récemment, il s'est intéressé aussi à la question des victimes masculines et à celle des femmes ayant des comportements violents. Donc, bonjour Mario.
Bonjour Roxane.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ben, c'est avec plaisir.
Alors, je commençais tout de suite avec Audrey. En fait, j'aurais une question. Donc, tu as une expertise sur le fonctionnement conjugal. Dis-nous un peu, qu'est-ce qui t'a amené à travailler, qu'est-ce qui t'a motivé à travailler spécifiquement sur la violence conjugale et encore plus spécifiquement auprès des hommes?
Bien, dans un premier temps, moi, mon expertise de recherche était vraiment au niveau de l'attachement amoureux. Puis, très tôt dans ma carrière, j'ai eu un excellent étudiant au doctorat qui avait vraiment l'intérêt pour faire le lien avec l'attachement puis la violence. Puis, il faisait un stage au Seuil de l'Estrie, qui est l'organisme partenaire ici à Sherbrooke. Et c'est lui, en fait, qui m'a amené dans son milieu et puis qui a voulu tester dans une première étude, donc, les liens entre l'attachement et la violence. Mais c'est une question qui m'avait beaucoup intéressée aussi dans mon propre doctorat. J'avais failli étudier ça, mais je m'étais un peu reculée puis j'avais étudié les liens entre l'attachement et les conflits dans les relations de couple, mais la violence, pour moi, ça a toujours été un mystère, ça a toujours été un intérêt de comprendre qu'est-ce qui pousse des gens qui s'aiment à commettre des gestes aussi dommageables pour la relation, puis comment les gens qui ont des insécurités d'attachement en particulier là, en viennent à user de ces comportements-là pour, comme stratégie complètement inadaptée là, de recherche de proximité, ils essaient de combler leurs besoins et tout ça, donc ça m'a beaucoup intéressée très tôt dans ma carrière, mais je remercie encore mon premier étudiant au doctorat qui m'a permis de créer là, les premiers jalons de partenariat de recherche là, en violence avec les auteurs de violence.
Bon, bien, on le salue, l'étudiant en question. Et est-ce que maintenant, c'est une axe vraiment principale de tes projets? Est-ce que tu peux donner un petit survol de tes projets actuels?
Ben oui, c'est vraiment un axe qui a pris vraiment beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Donc, j'ai facilement là, une douzaine d'étudiants qui travaillent là, sur cette thématique-là. Mon autre thématique est plus du côté du couple, de la sexualité puis de la transition à la parentalité. Donc, c'est vraiment un autre axe qui est très fort aussi dans mon labo. Mais en termes de violence, on travaille depuis 2007 avec le Seuil de l'Estrie. Puis, on avait déjà étudié beaucoup l'attachement puis d'autres construits là, en lien avec la violence conjugale. Puis plus récemment, bien, avec À cœur d'homme, on a entretenu des contacts qui nous ont amenés là, vraiment à élargir le partenariat de recherche à plusieurs organismes. Là, maintenant, on est à 24 milieux là, qui ont démontré de l'intérêt à travailler avec nous. Donc, ça a vraiment grandi énormément. Puis j'ai eu la chance vraiment d'apprendre énormément depuis 2007 avec un premier milieu. Puis je pense, d'arriver plus prête à offrir un partenariat qui était gagnant pour les organismes là, membres de l'association à cœur d'homme. Puis vraiment, on a décidé dans un premier temps vraiment de se concentrer sur les caractéristiques des auteurs puis sur les corrélats de la violence, donc les facteurs qui sont propres à chaque individu puis qui sont associés à la perpétration de violence pour vraiment mieux comprendre qui sont ces personnes-là puis comment ça se fait qu'ils en arrivent à poser ces gestes de violence-là.
Merci, génial, très intéressant.
Et puis toi, Mario, tu travailles pour l'organisme Violence. Qu'est-ce que c'est cet organisme-là?
Ben, c'est un organisme sans but lucratif, comme les 33 autres ressources, les 32 autres ressources au Québec là, qui ont comme noyau central dans leur mission de prévenir les violences conjugales et familiales en intervenant auprès des personnes qui ont des comportements violents et bien sûr plus spécifiquement auprès des clientèles masculines. Donc, nous, on est situé dans la région du sud-ouest de la Montérégie et voilà.
Génial. Donc, ça fait quand même plusieurs années, là, 25 ans que tu travailles auprès de cette clientèle-là ou auprès de cette thématique-là, en fait. Et qu'est-ce qui t'a amené, toi, à travailler
oui,
dans
puis
ce
je...
domaine-là? Oups, excuse-moi.
c'est vraiment le hasard. En fait, c'est un drôle de parcours. Moi, je suis diplômé en histoire et après ça, j'ai travaillé comme artiste peintre et comme musicien pendant des années avant de me recycler dans le domaine. Et c'est vraiment un concours de circonstances. En fait, on est déménagé, ma conjointe puis moi, à Saint-Louis-de-Gonzague, dans un petit village. On a eu notre premier enfant et là, j'ai senti le besoin. Un artiste peintre, ça gagne pas toujours beaucoup d'argent. Puis le revenu n'est pas toujours stable. Et là, j'ai senti comme une espèce d'insécurité puis un devoir paternel là, d'avoir en fait un revenu plus stable. Puis c'est vraiment un concours de circonstances. J'ai appliqué sur un poste tout simplement là, dans un organisme qui était à ce moment-là, il y a 25 ans, on remonte là, c'était la préhistoire presque là, des organismes pour hommes. Et ils étaient vraiment mal pris, fait qu'ils ont pris n'importe qui puis ils m'ont engagé, même si j'avais même pas suivi un cours de psycho au cégep. Fait que par la suite, j'ai eu longtemps le syndrome de l'imposteur et c'est peut-être ça qui a fait que je me suis investi beaucoup dans le développement des connaissances puis dans la recherche pour, dans le fond, parfaire mes connaissances puis avoir être un peu... Et là, je peux vous dire, le syndrome de l'imposteur, ça va mieux. Là, je me sens à ma place. Et comme dans mon parcours personnel, dans le fond, il y a un côté justement un peu artiste. Là, moi, j'ai souhaité puis je souhaite encore changer le monde. Par l'art, on peut y arriver, mais de travailler une personne à la fois pour réduire les violences conjugales et familiales, ben c'est une mission qui remplit pleinement mes valeurs et qui me satisfait encore aujourd'hui, là.
Super, merci beaucoup pour ta réponse, Mario. Donc, un heureux concours de circonstances, justement, qui t'a amené ici. Mais quelle est la nature du partenariat que tu as avec Audrey actuellement? Donc, vous vous connaissez de où? Puis, qu'est-ce qui vous a amené à travailler ensemble?
Ben nous, on connaît les différents centres de recherche parce qu'évidemment, puis le CRIPCAS en particulier, évidemment, on s'intéresse au développement des connaissances, puis on a des hypothèses, nous, puis on souhaite travailler, bien sûr, avec les milieux de recherche là, pour valider ou infirmer, en tout cas pour développer nos connaissances. Et à travers différents séminaires, je pourrais pas rappeler la rencontre initiale avec Audrey, mais il y a quelques années, j'avais approché Audrey là, suite à un séminaire en disant, on pourrait tu développer quelque chose? Audrey avait déjà un projet de partenariat depuis des années avec le seuil de l'Estrie et je me disais, ben ça serait intéressant peut-être d'élargir le bassin et je l'avais approché Audrey en disant, ben est-ce qu'on pourrait s'intégrer, nous, à ce protocole-là? Parce que nous aussi, on est intéressés à, dans le fond, à mieux à avoir votre accompagnement pour mieux cibler les besoins de la clientèle et aussi à contribuer d'une façon plus large, avoir un bassin un peu plus vaste pour avoir des données sur la clientèle qui, au niveau des, par exemple, des orientations des politiques sociales, peut avoir une influence là. Fait que c'est vraiment dans cette perspective-là. Puis la réponse était extraordinaire depuis le début. Audrey nous a promis des chips à chaque assemblée générale au moment du bilan. Et là, avec la pandémie, on n'a pas eu encore les chips, mais on n'a pas eu à regretter notre partenariat depuis le départ.
Oui, puis j'ajouterais peut-être que dans le fond, la personne qui est à la direction d'Accueil d'hommes, tu sais, aussi avait entendu parler de ce qu'on faisait avec le seuil de l'Estrie, puis a vraiment eu le souhait de l'offrir, tu sais, notamment à Violence, mais aussi à tous les autres milieux qui sont membres de l'association, partout au Québec. Fait que moi, je suis allée rencontrer l'ensemble des directeurs en 2019, puis on a créé, dans le fond, un comité. Dont Mario fait partie. Fait qu'on travaille vraiment étroitement ensemble depuis janvier 2019. On est comme sur le comité consultatif qui est formé de directeurs, coordonnateurs d'organismes au Québec, puis de deux chercheurs du CRUCAS, donc moi et Natacha Godbout, que vous connaissez bien. Donc, on ne voulait pas être plus de chercheurs que de personnes sur le terrain. Fait qu'on est resté toujours à deux. Puis on se rencontre à tous les mois, le comité. C'est ensemble, le comité, qu'on a vraiment décidé les mesures qu'on allait choisir, comment on allait implanter notre processus d'évaluation systématique de tous les nouveaux usagers qui allaient arriver dans les services des organismes partenaires, puis comment on voulait vraiment favoriser là, une implantation de ce projet-là pour que ce soit durable, respectueux des pratiques, puis surtout que ça bénéficie à tous les acteurs. Donc, à la fois aux chercheurs, nous, comme chercheurs, on est très conscients qu'en travaillant avec les organismes d'Accueil d'hommes, on ramasse des données d'une richesse inouïe. On se rappellera que les hommes participent moins souvent à la recherche et que les hommes consultent moins souvent aussi. Donc, nous, c'est un accès à des données là, extrêmement rare. Donc, on en est vraiment conscient. Et pour les organismes, on voulait qu'il y ait vraiment au moins autant de bénéfices que nous. Fait qu'en plus, tu sais, d'évaluer leur clientèle, chaque organisme, dans le fond, reçoit une piste personnalisée qui présente le profil synthèse de l'usager, puis il peut s'en inspirer après ça pour ajuster son plan de traitement. Puis on les aide aussi, les organismes, au niveau de leurs statistiques annuelles qu'ils ont à fournir. On leur offre aussi des webinaires de formation, puis tous les étudiants qui font des projets de recherche, là, qui s'inscrivent dans le cadre du partenariat ont l'obligation, mais aussi le privilège, donc de venir présenter leur projet au comité, puis ensuite d'offrir un webinaire à tous les intervenants membres, dont Francis. Francis lui-même est venu faire une partie de sa cueillette de données, donc qui a pu offrir un webinaire à tous les intervenants d'Accueil d'hommes, qu'ils prennent part ou non au projet, là. Donc, on veut vraiment redonner à l'ensemble de l'association qui nous a ouvert les portes avec beaucoup de générosité, puis dont on espère que nos travaux vont aider leur travail là, au quotidien.
Donc, c'est vraiment génial. On voit vraiment à quel point c'est important de joindre autant le terrain que la recherche, puis à quel point ça peut donner lieu à des projets qui sont vraiment stimulants, puis qui vont aider vraiment les deux côtés, là.
Ouais,
bon, on parlait de changer le monde tantôt. Ben, je pense que c'est bien parti, Mario. Ça se peut que tu changes le monde de tranquillement.
Et on est privilégié aussi là, parce que c'est une collaboration. Moi, ça fait quand même plusieurs années que j'ai des collaborations avec les milieux de recherche. Et très souvent, les organismes, on est approchés par les milieux de recherche en disant, ben là, on veut travailler cette question. Là, c'est vraiment une co-construction du début à la fin. Fait que c'est vraiment un partenariat exceptionnel, là. On n'a jamais eu un partenariat comme ça, là, parce que nos questions vont susciter peut-être des travaux d'étudiants, et l'inverse, après ça, boum, des étudiants qui arrivent, puis, fait que c'est vraiment très, très, très stimulant, là.
Est-ce que
Puis
c'est
on
bon?
attend la fin de la pandémie pour les chips.
Oui, ça prend du plaisir aussi là, de se voir entre êtres humains. Puis moi, j'ai un petit faible pour les chips qui est bien connu.
J'ai partagé quelques chips moi-même, je crois, avec Audrey dans le passé. Alors, ce projet-là, ce partenariat-là, est-ce qu'il est projeté à longue durée? Est-ce que
Oui.
c'est quoi? Oui, c'est.
Ben, oui, moi, je dis souvent au milieu de la blague qu'on est comme un jeune couple, tu sais, qu'on s'engage pour le plus longtemps possible tant que ce sera mutuellement satisfaisant pour les deux parties. Donc, on veut vraiment assurer une pérennité à ce projet-là, que les questions continuent de venir des deux côtés, que le comité, peut-être qu'il y aura du mouvement, là, tu sais, de remplacement, mais que le comité va continuer, dans le fond, de susciter des questions qui viennent de la clinique, qui viennent de la recherche. Puis, à terme, ce projet-là, tu sais, il ne sera pas si coûteux à faire rayonner, tu sais, parce qu'il peut continuer dans le temps, fait que ça peut être 20 ans, puis on prend bien soin, c'est ça, d'établir un bon climat de confiance entre nous, l'engagement des milieux puis des intervenants. Donc, on rencontre les équipes avant de lancer là, dans chaque milieu le recrutement. Donc, on rencontre toutes les équipes, on écoute les préoccupations, Puis je leur dis tout, attendez pas que ça aille mal entre nous avant de me le dire, mais vous êtes libre, tu sais, de nous quitter quand vous voudrez. Tu sais, tant que le partenariat va vous satisfaire, bien, on continuera de travailler ensemble. Puis j'ai au moins 20 ans avant ma retraite.
Okay. Wow. Fait que c'est libre de toute coercition, là. Il n'y a aucune pression. Ils peuvent participer selon un consentement libre et éclairé.
Ah, tout à fait.
Les retombées sont très concrètes aussi à travers les webinaires. Moi, j'ai en tête, par exemple, d'avoir approfondi la question avec Natacha puis d'autres personnes qui ont donné qui ont animé des webinaires sur la question des traumas complexes, par exemple, de mieux comprendre pourquoi avec certains clients, ça prend tellement de temps avant d'avoir des changements. Bon, ben la question des traumas complexes nous donne un éclairage là-dessus qu'on n'avait pas nécessairement, ou en tout cas, ou pas dans les mêmes termes. Fait que c'est très concret, là. Les retombées sont vraiment très concrètes sur le plan clinique.
Oui, puis j'ajouterais que le fait que, dans le fond, je ne suis pas toute seule comme chercheur, hein, j'ai une équipe avec moi. On a parlé de Natacha Godbout, spécialiste en trauma, mais il y a aussi avec moi Marie-France Lafontaine, Catherine Péloquin, qui sont spécialistes aussi au niveau de l'attachement, du fonctionnement conjugal. Il y a Marie-Ève Daspe, puis Claudia Savard, qui, eux, ont des connaissances plus poussées au niveau de la personnalité. Au niveau de la clinique aussi, peuvent vraiment là, nous amener d'autres éclairages. Puis chacune de mes co-chercheuses, dans le fond, ont accepté d'offrir des webinaires dans leur domaine d'expertise spécifique. Fait que ça bénéficie aussi énormément au milieu qui en apprennent sur ces construits-là qu'on a insérés, bien sûr, là, dans le questionnaire choisi par le comité.
En parlant de construits, justement, la violence conjugale elle-même, c'est un construit qui a plusieurs visions, plusieurs définitions. Et j'imagine que vous avez dû, pour créer ce projet-là, quand même vous aligner sur, bon, c'est comme ça qu'on l'aborde. Donc, comment vous abordez la question, vous, dans vos recherches, dans vos partenariats?
Peut-être me lancer, puis Audrey, tu viendras corriger les bêtises que je peux dire, là. Il y a plusieurs choses à considérer quand on parle de violence conjugale. D'abord, il y a des actes, il y a des agressions, mais il y a un contexte de rapport de pouvoir dans le couple. Il y a une question de sévérité puis de fréquence des comportements. Il y a une question de diversité des formes de violence et il y a surtout l'enjeu des impacts. Quels sont les impacts? Le même geste peut, avoir, dans une relation, avoir peu d'impact d'intimidation ou de crainte, par exemple, mais le même geste peut avoir des impacts énormes. Et là, donc dans ma définition, dans notre définition clinique de la violence, bien, il y a de regarder les comportements d'agression sous leurs diverses formes et leurs divers niveaux de sévérité et de fréquence, mais il y a aussi les impacts sur les relations de pouvoir et les impacts psychologiques, les blessures, donc, et les impacts dans la relation. Je dirais que c'est les deux principaux enjeux sur lesquels on doit tenir compte là, pour estimer la violence.
Parfait. Puis moi, j'ajouterais qu'on a choisi, dans le cadre du partenariat, de se pencher sur plusieurs formes de violence puis de les étudier. Donc, c'est sûr que ce qu'on entend davantage parler quand on pense violence conjugale, c'est la violence physique. Puis c'est vraiment la première image qui nous vient en tête, mais c'est rare que la violence physique va arriver tout d'un coup puis qu'elle n'est pas accompagnée d'autres formes de violence. Fait que nous, on regarde aussi la violence psychologique qui a été commise, donc toute violence verbale, le fait de rabaisser la personne, tout ça. On regarde aussi les comportements de contrôle coercitif, le fait de surveiller les allées et venues, de restreindre les contacts, par exemple, de vouloir savoir en tout temps où est la personne. On s'intéresse également à la violence sexuelle, la coercition sexuelle, le fait d'insister, mettre de la pression, puis jusqu'à parfois utiliser la force là, pour avoir des relations sexuelles. Mais on regarde aussi d'autres formes qui sont plus rares de violence, comme par exemple la violence économique. Puis c'est évidemment, c'est pas tout le monde là, qui va aller utiliser ces formes de violence-là. Et une forme de violence qui était particulièrement pertinente et proposée par les intervenants, c'est la violence sociale. Le fait de menacer de porter atteinte à la réputation, de faire perdre la garde des enfants ou de nuire à la carrière, par exemple, de son partenaire, qui est une forme de violence qui est quand même relativement moins étudiée. Puis, dans les nouveaux changements qu'on a faits à notre questionnaire, on veut aussi tenir compte de la cyberviolence. Actuellement, là, c'est moins documenté, mais c'est de plus en plus prévalent dans les relations de couple. C'est comme si les technologies ont fait en sorte qu'il y a des nouvelles formes de violence qui apparaissent. Et à toutes les fois qu'on pense à la violence, pour nous, c'est juste important de dire que ce n'est pas toujours juste la violence la plus sévère qui est manifestée par un seul membre du couple. Donc, Ça, c'est la forme qu'on connaît davantage, mais parfois, il y a de la violence un petit peu moins sévère. Parfois, il peut y avoir de la violence de la part des deux partenaires aussi. Donc, on est quand même assez large dans notre conceptualisation et les mesures de la violence là, conjugale dans le travail qu'on fait avec les organismes, étant donné, puis Mario, tu me corrigeras, mais étant donné que c'est aussi très variable, les dynamiques de violence qui sont rapportées là, par les usagers de vos services.
Et ça correspond, puis jamais j'oserais te corriger, mais ça correspond à ce qu'on rencontre. T'sais. On a des gens chez nous qui sont référés par le système judiciaire, on a des gens qui sont référés qui risquent de tuer leur conjointe la semaine, le lendemain, puis on a des gens qui sont référés, qui arrivent chez nous en disant, ben ça fait deux, trois fois que je hausse le ton, puis là, ma conjointe m'a dit, non, c'est pas acceptable, fait que j'arrive, fait on accueille toute la diversité en fonction de la demande. Puis on a effectivement j'avais par exemple hier dans un jeune couple qui arrive et les deux disent, bon, on habite chez la mère du jeune homme. La mère du jeune homme dit, ben là, ça marche pas, là, vous vous criez après, allez demander de l'aide. J'avais un jeune couple qui veulent les deux demander de l'aide, qui reconnaissent les deux, se crier après, se traiter de non, être jaloux, jalouse. Fait qu'on a vraiment une diversité. Fait qu'on essaie de dans le fond, on doit être en mesure d'accueillir toutes ces clientèles-là et de comprendre l'ensemble des enjeux, là.
Donc, c'est ce qui justifie aussi que vous avez une vision ou, par exemple, que vous concevez le phénomène de la violence conjugale sous plusieurs formes, qu'il existe différentes dynamiques aussi, etc. Donc, pour considérer tous les types de personnes qui pourraient venir consulter, par exemple, dans vos organismes.
Exactement. Puis, si nos questionnaires peuvent évaluer une partie de la réponse, c'est sûr que les intervenants qui les rencontrent vont aller beaucoup plus loin dans l'approfondissement de leur compréhension que ce que nos mesures vont faire, évidemment. Fait qu'on est aussi conscient que dans la recherche, nos questionnaires ils ont certaines limites, puis que ben, les organismes qui accompagnent ces gens-là, eux, peuvent faire une évaluation beaucoup plus approfondie ensuite là, de tous les éléments contextuels associés à cette violence-là.
Okay. Génial. Pour éventuellement, j'imagine, bonifier aussi les questionnaires en retour.
On souhaite.
Génial. Puis, ben, je lance la question peut-être à Mario. Mais Mario, selon toi, qu'est-ce qui fait en sorte que des personnes vont en venir à commettre de la violence conjugale? Donc, qu'est-ce qui peut mener vers ça?
Bien, c'est une réponse qui va occuper notre prochaine heure. en réalité,
Mario a coupé. Je vais être obligée de parler à sa place pour
une grande diversité de facteurs de risque. Je pense à la recherche de Deborah Capaldi il y a quelques années, qui avait fait une revue de littérature, puis qui en était venue à faire une nomenclature des principaux facteurs de risque. Il y a des facteurs qui sont forcément liés au développement des personnes. Je vais essayer d'être bref, là, mais liés vraiment au développement. Donc, des enjeux d'exposition à la violence conjugale, des enjeux de mauvais traitement, d'abus, de trauma, des enjeux rapidement là, de problèmes d'attachement. Et rapidement, on voit chez les jeunes, là, difficultés d'autorégulation des émotions. C'est présent à l'âge de 5 ans. Puis c'est présent dans mon bureau à l'âge de 30 ans, à l'âge de 40 ans, à l'âge de 50 ans. Fait qu'il y a des enjeux qui sont vraiment dans les profondeurs, on va dire, dans le développement de la personne. Et c'est des enjeux pas simples à travailler. Vous comprenez que dans nos plans d'intervention, quand la personne, ça fait 20 ans qu'elle a des habitudes comportementales, puis des... puis des fois des faibles habiletés de mentalisation, c'est tout un travail, là. Fait qu'il y a des facteurs de risque qui sont à rechercher là-dedans. Puis après ça, on voit à l'adolescence, il y a d'autres facteurs de risque qui vont s'ajouter ou encore apparaître chez des personnes qui n'avaient pas de facteurs de risque au départ ou très peu. Par exemple, expérience d'intimidation, expérience d'appartenance à un groupe d'amis où on valorise la violence. Et après ça, dans les premières relations de couple, on voit apparaître d'autres facteurs de risque qui peuvent s'ajouter, qui sont plus de la dimension systémique. Faut faire attention en violence conjugale quand on parle d'analyse systémique parce qu'il faut jamais culpabiliser les victimes de la violence qu'elles subissent. Par contre, on est en mesure de se poser des questions quand on voit que, par exemple, quelqu'un qui présente peu de facteurs de risque, tout à coup, une première conjointe, une deuxième conjointe, il n'y a pas de problème de violence conjugale, et arrive avec la troisième conjointe, puis là, il y a un problème de violence conjugale. Que s'est-il passé? Il y a forcément des éléments systémiques qui nous permettent dont on doit tenir compte là, pour regarder les enjeux, sans bien sûr faire jamais porter, je me répète, là, la responsabilité des victimes aux agressions qu'elles subissent. Et il y a des facteurs relationnels qui vont entrer en ligne de compte et il y a des facteurs situationnels aussi, par exemple, des stress qui vont s'ajouter, des deuils. On l'a vu à travers la pandémie, il y a eu plus de plaintes, il y a eu plus de... Donc, des facteurs qui viennent s'ajouter dans des pertes, des difficultés économiques qui vont amplifier des problèmes de consommation de drogue ou d'alcool qui vont amplifier, qui vont contribuer à augmenter les risques. Ce dont on parle peu aussi, c'est des situations de grande pauvreté, donc des enjeux plus sociaux, des facteurs des situations de grande pauvreté, par exemple, là, qui entraînent des risques, qui sont associés aux risques de violences physiques sévères en particulier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans toutes les classes sociales, bien sûr, des problèmes de violence conjugale, mais il y a des enjeux qui vont être exacerbés à l'intérieur de ça. En termes de... Fait que voilà un ensemble de facteurs. Bien sûr, il y a des enjeux psychologiques aussi. Parmi notre clientèle, on voit beaucoup de gens qui présentent des traits, justement, de difficultés d'autorégulation des émotions. On a besoin de l'autre, finalement, pour s'autoréguler et on va prendre le pouvoir sur l'autre aussitôt qu'il y a quelque chose qui arrive. C'est comme si les émotions, là, la capacité de mentalisation des émotions est souvent très faible et à ce moment-là, l'impulsivité va entrer en ligne de compte. Et là, j'ai besoin de contrôler l'autre comme pour répondre à mon état de mal-être. Et bien sûr, comme le disait Audrey au début, c'est évidemment, ça n'a pas de sens, ça ne marche pas, là. Mais sur le coup, il y a des gains parce que la personne au moins se mobilise puis a l'impression d'avoir des gains, là. Fait que je ne suis pas du tout l'expert en explication psychologique des processus, là. Peut-être Audrey, tu peux m'aider ou me corriger si j'ai dit des bêtises.
Mais je pense que tu dis absolument rien qui n'a pas de sens. Moi, qu'est-ce que j'en profiterais pour dire, c'est que il y a certains modèles qui vont regarder vraiment la violence comme étant un peu l'interaction, un peu les antécédents que la personne amène avec elle dans sa relation de couple. T'sais, notamment d'avoir vécu des traumas dans l'enfance, d'avoir des insécurités d'attachement, ses traits de personnalité. Puis ça, bien, ça la suit dans ses relations. Mais souvent, il va y avoir des éléments déclencheurs, des éléments contextuels. Tu as parlé de stresseur tantôt, mais des fois, ça peut être des conflits. Ça peut être une trahison, un rejet, une menace à l'ego qui est assez importante puis qui va faire que là, oh, la personne est activée. Mais très souvent, c'est combiné avec une difficulté à s'arrêter. Fait qu'il y a vraiment, chez des personnes, ils ont une bonne capacité à s'inhiber. Si moi, je pogne les nerfs contre mon partenaire, tu sais, ben, je vais être capable de réguler ma colère, puis je vais être capable de dire « je suis très fâchée en ce moment », tu sais, mais je vais être capable de demeurer calme. D'abord parce que j'ai beaucoup d'empathie, j'ai une bonne capacité de mentaliser puis de réguler mes émotions aussi. Puis j'ai aussi des bonnes habiletés de communication, ce qui n'est pas toujours le cas des gens qui viennent chercher de l'aide, c'est-à-dire qu'il leur manque aussi d'habiletés pour... lorsqu'ils sont activés, puis si on ajoute à ça qu'ils ont un historique, tu sais, d'avoir été exposés à de la violence, avoir subi des mauvais traitements, une image de soi qui est négative, bien, c'est sûr que ça les rend plus à risque. Puis si on ajoute à ça d'autres facteurs qu'on évalue, nous, un petit peu plus sociaux, comme l'hostilité de façon générale envers les hommes, envers les femmes, ou encore, tu sais, une grosse pression de rencontrer les standards de masculinité, par exemple, tu sais, qui est un nouveau facteur qu'on va vouloir étudier. Bien, c'est sûr que c'est tous des facteurs qui interagissent entre eux et qui sont connus pour pouvoir nous aider à comprendre qu'est-ce qui fait que la personne va se retenir un peu de passer à l'acte ou versus n'aura pas cette capacité-là de retenir ces gestes-là puis va les poser avec l'idée que ça peut lui apporter un bénéfice, mais qui est complètement erroné parce que ça blesse toujours, ça fait mal à la relation, ça fait mal au partenaire, puis souvent, ça fait mal à l'auteur aussi de cette violence-là, qui peut, après ça, avoir des sentiments de honte, de culpabilité, qui viennent encore une fois nourrir ce malaise-là envers lui-même, puis augmenter son risque futur de passer à l'acte.
Si je peux me permettre d'ajouter, c'est ça, nos clients ne sont pas différents de la majorité des gens, de presque tout le monde qui désire être en couple, vivre des relations de couple. Nos clients souhaitent aussi vivre des relations où ils vont se sentir importants pour l'autre, que l'autre, ils vont sentir que l'autre leur accorde une importance puis de la valeur. Donc, l'idéal relationnel, là, il est à peu près le même dans toute la population. En tout cas, ça sera mesuré, là, mais moi, je le retrouve chez mes clients. Et pourtant, leur capacité à atteindre cet idéal-là est très faible. Puis la violence, bien sûr, les éloigne de plus en plus de cet idéal relationnel-là. Mais je le dis parce que c'est souvent le moteur de changement. On amène la personne à retrouver le contact avec cet idéal-là et ça devient un moteur de changement très puissant quand on arrive à les accompagner pour qu'ils fassent le constat que leurs moyens ne sont pas appropriés, leurs moyens nuisent à l'atteinte de cet idéal-là, puis donc à des besoins plus fondamentaux.
Oui, puis que ça vienne avant ou après, tu sais, nos travaux montrent aussi que la détresse psychologique est vraiment très élevée chez les auteurs de violence. Le risque suicidaire est plus élevé, la détresse psychologique, anxiété, symptômes de dépression est plus élevée que dans la population générale, la détresse conjugale aussi. T'sais, donc, ça reste des personnes qui sont très sollicitées déjà là, dans leur capacité juste pour essayer de gérer leur propre détresse. Fait que ça rend difficile d'être empathique et à l'écoute d'une autre personne quand je suis moi-même envahie là, par toute cette charge-là émotionnelle, mais qui peut être antécédent, mais aussi conséquence de la violence qui a été perpétrée.
Puis comme vous l'avez bien mentionné aussi, il peut y avoir une forme de réactivation de certains traumas justement dans la relation, j'imagine.
Bien, tout à fait. Puis des fois, j'entends les intervenants parler de discours, tu sais, de personnes qui disent, ah non, moi, je me ferai plus jamais filer dessus, par exemple. Plus jamais quelqu'un va avoir le contrôle sur moi, tu sais, parce que, mettons, cette personne-là a vécu de l'intimidation. Écoute, les taux d'intimidation, là, dans nos données sont vraiment entre 2 à 3 fois supérieurs à ce qu'on observe dans la population générale là, en termes de victimisation. Fait que c'est vraiment très élevé. Fait qu'il faut aussi comprendre, c'est sûr que des fois, il y a des choses qui sont réactivées à l'intérieur de la relation de couple, puis des mécanismes de défense qui ont permis la survie à un moment donné, mais qui aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés dans le cadre d'une relation de couple.
Ils sont pas du tout adaptés, mais ils mènent pas non plus vers l'idéal amoureux auquel ils aspirent en fin de compte. Puis
Une
sinon.
question spontanée. Oh. Tantôt, Mario, tu as mis une emphase particulière sur ne pas culpabiliser les victimes de violences conjugales. Peux-tu expliquer un peu, parce que j'entendais un peu là-dedans qu'il y a des maladresses qui sont courantes là-dessus. Est-ce que tu peux un peu développer là-dessus?
Ça amène sur le terrain, ce qu'on voit, c'est qu'on a autant, moi, quand je jase avec mes interlocutrices, par exemple, des maisons d'hébergement, puis même les gens qui travaillent en CLSC, on a beaucoup de difficultés, puis une difficulté similaire à aider les personnes à prendre conscience du problème, tant lorsqu'il s'agit d'un problème de violence agie que d'un problème de violence subie. Et une des choses qui nous explique ça, c'est la construction à travers le cycle de la violence, comment à chaque fois l'auteur va se justifier et comment la victime va acheter et croire à la justification, dans le fond, de ce que l'autre dit. Donc, la victime va déjà être porté à se culpabiliser, à se surresponsabiliser en fait face aux besoins de l'autre, en disant ben, effectivement, il y a eu des traumas, effectivement, la personne a des difficultés, la personne a des stresseurs. Et peu à peu, la victime en vient à négliger ses propres besoins au profit de l'autre, en se surresponsabilisant par rapport aux besoins de l'autre. Alors, c'est un danger de revictimiser les gens lorsqu'on les accueille dans les services en disant, ouais, mais vous auriez pas un petit peu cherché ce qui est arrivé. C'est vraiment dans ce sens-là, là, que il faut être très, très, très prudent à ne pas revictimiser les personnes. Au contraire, on doit les accueillir puis les aider à prendre conscience du problème puis à reprendre du pouvoir sur leur vie. Là. Je sais pas si ça répond, Francis, à la question que tu posais.
Oui, mais tu disais qu'il fallait éviter de les culpabiliser. Et je pense que tu as répondu comment qu'eux-mêmes se culpabilisent. Mais nous, comment est-ce qu'on les culpabilise? Est-ce que le commun des mortels tend à le faire ou bien comment on peut éviter de le faire et comme revictimiser un peu?
En accueillant le récit des expériences de violence subies sans essayer de responsabilité, c'est ça, en accueillant, en écoutant, en croyant les victimes, tout simplement, c'est la base. C'est ça, là, en accueillant. Puis les travaux sur la résilience nous ont montré un peu le même phénomène, l'importance de laisser la parole aux gens pour qu'elles puissent s'exprimer pleinement puis profondément, sans avoir à, justement à regarder qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ou pour en même... Non, 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 non. On commence par... Est-ce qu'on peut juste écouter les gens? C'est vraiment ça, là.
En évitant de dire, mais pourquoi tu n'es pas parti plus tôt? Pourquoi tu n'as pas dénoncé? Comment ça que tu as accepté ça? Puis tu n'as pas vu les signes? Donc, un petit peu de la même manière qu'on ne veut pas faire ça non plus pour une victime de violence sexuelle ou quelqu'un qui rapporte n'importe quelle forme de trauma, d'un peu remettre en doute que, oh, mais tu aurais pu le voir ou, oh, tu avais des bénéfices. Fait, c'est vraiment à propos d'accueillir son témoignage, de l'écouter puis de ne pas, à travers nos questions, un petit peu revictimiser, tu sais, puis faire porter la responsabilité d'un geste qui n'est pas sa responsabilité du tout. Ça demeure un geste tout le temps inacceptable et qui est tout le temps la responsabilité de l'auteur.
Puis ça m'amène aussi à me dire, bien, dans le cas où on recevrait plutôt un témoignage de quelqu'un qui a commis de la violence, est-ce que on, tu sais, est-ce que qu'est-ce qu'on doit faire ou comment on devrait agir dans ce cas-là?
Je peux me lancer. Puis ça correspond un petit peu aux travaux dont je parlais au départ sur le repérage de la violence et la référence, parce que la majorité des gens qui arrivent chez nous sont référés par des partenaires, et donc c'est des partenaires qui ont eu l'habileté d'accueillir les gens. Et le premier enjeu, c'est vraiment d'amener un message socialement qu'il y a des services pour les personnes qui ont des comportements violents. C'est aussi d'amener, puis même, ça, c'est des services, dans le fond, dans l'aide formelle, mais aussi dans les réseaux d'aide informelle, les amis, les proches. Socialement, on peut valoriser le fait de, encourager le fait d'en parler. Et ça, je pense que c'est très, très, très précieux, puis ça peut sauver des vies, là. C'est très. Et comment, à ce moment-là, accueillir? C'est un peu la même chose. C'est d'accueillir et d'informer sur les ressources. Puis de faire, puis ce qui aide toujours, c'est de faire le lien avec la détresse. Tu sais, bon, est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est gagnant? Est-ce que t'es content? Et généralement, les gens qui vont se confier vont être capables de relier l'élément à la détresse et tout simplement d'inviter, de dire, il y a des services pour les personnes et on suggère de reprendre les termes de la personne. Si le gars me dit, j'ai sauté une coche, puis si on lui répond en disant, tu as un problème de violence conjugale, il y a un problème d'arrimage, la personne risque de se taire, là. On est mieux d'y aller, on dit, c'est un accompagnement qui est lent et progressif. Donc, on va dire aux proches, partez de ces termes en disant, tu as un problème de pétage de coche, il y a peut-être un organisme qui pourrait t'aider avec ton problème de pétage de coche. Hein? Puis, et de les accompagner, puis de valoriser ça même, là, de dire, ça se règle, là, c'est un problème. Il y a des choses qu'on n'apprend pas, là. J'ai certaines mes clients, je prends beaucoup de temps, là, mais j'ai par exemple une portion de ma clientèle que, tu sais, on dit le pic de l'âge, le pic d'agressivité là, chez les êtres humains, c'est entre 2 et 4 ans. Hein, c'est un pic. Là, j'ai certains de mes clients qui n'ont jamais franchi l'étape d'apprendre à mettre des mots sur leurs besoins, à retarder la satisfaction de leurs désirs, à être en contact avec leurs émotions. Fait que, dans le fond, il y a des racines qui sont très, très, très profondes là, dans certains cas. Ils ont juste pas. Ils sont encore à l'âge de 2 et 4 ans, mais ils sont épeurants, maudits à l'âge adulte là, quand ils font des crises de bacon. Là, c'est intense. Donc, d'encourager ça, puis de présumer que, c'est comme un iceberg, là, la personne me dit ça, mais de présumer qu'en dessous, il y a ce désir-là profond d'être. En harmonie avec une conjointe, avec un conjoint, avec les autres, d'être dans des comportements de non-violence, de respect puis de confiance. Donc, de miser sur la partie en dessous là, du iceberg, de la voir, même si la personne qu'on a en face de nous ne nous incite pas des fois à voir cette portion-là. Et c'est d'autant plus facile parce que c'est les forces de la personne qui vont être mises à contribution pour adopter des comportements non-violents.
Magnifique, j'ai très peu à ajouter. T'sais, sinon de dire que des fois aussi, c'est le modèle de père, par exemple, que cette personne-là veut être pour ses enfants, le genre de partenaire amoureux que cette personne-là veut être. T'sais, des fois, ça contraste un peu avec les comportements qui nous partage, fait que comment on peut l'accompagner à dire, hey, t'aimerais-tu ça aller chercher de l'aide pour être un bon père, un meilleur modèle, un bon partenaire, nanana, je connais des ressources, puis surtout d'accompagner vers la recherche d'aide parce que c'est quand même connu que c'est difficile pour un homme d'admettre sa vulnérabilité, d'admettre qu'il a besoin d'aide, puis d'aller faire cette demande d'aide-là. Donc, tu sais, le plus possible qu'on peut les soutenir à aller chercher l'aide, ben je pense qu'on fait un pas dans la bonne direction en essayant de pas trop ajouter de honte ou de jugement à ce qui probablement porte déjà à l'intérieur d'eux, là.
Fait qu'éviter des toutes réactions qui pourraient les stigmatiser davantage. Et puis faire attention justement au choix des mots, comme vous l'avez bien mentionné, là, tu sais, de ne pas poser l'étiquette directement de violence conjugale si, par exemple, la personne parle de chicane, de pétage de coche ou puis, ce qui est important aussi que je retiens beaucoup que vous avez mentionné, c'est de référer ces personnes-là à des organismes, justement, puis de dire, ben c'est correct, tu sais, merci de m'en avoir parlé, c'est déjà très bien, tu sais, voici des organismes qui pourraient t'aider par rapport à ton problème. OK. On change un petit peu de sujet pour parler de l'actualité. Ben, on ne change pas de sujet, mais on change un petit peu d'axe. Ben, depuis quelques années, puis particulièrement aussi depuis le début de la pandémie, on a vu plusieurs cas d'homicides conjugaux et familiaux qui ont été médiatisés. Selon vous, c'est quoi les principaux facteurs de risque qui pourraient être associés justement à l'homicide conjugal? Qu'est-ce qui fait en sorte que certaines personnes vont se rendre jusqu'à commettre ces actes-là?
C'est tout. Moi, je suis tellement content que tu poses la question parce que des fois, l'image qu'on a, c'est le voisin qui est interviewé comme expert, puis le voisin dit, ben, c'est un bon voisin, on sait pas. Conjugaux, là, c'est très majoritairement des hommes qui tuent leur conjointe, là. Et il y a des signes avant-coureurs, il y a des facteurs, les recherches les démontrent assez bien. Il y a des signes qu'on peut, c'est des choses qu'on peut prévenir parce que c'est toujours les mêmes indices. D'abord, on va regarder est-ce qu'il y a une séparation en cours? Et surtout, est-ce que la séparation est acceptée? Parce que le risque, les personnes qui vont passer à l'acte, on va avoir dans un immense nombre de cas, des gens qui sont en rupture, mais qui refusent la rupture. Et là, c'est comme si c'était psychologiquement, là, ils ne sont pas capables d'aller là, et leur réflexe est d'essayer de contrôler la partenaire pour empêcher la rupture. C'est comme s'ils ne veulent pas rentrer avec toutes les émotions, avec tout le deuil, avec tout ce que ça représente. Fait qu'à ce moment-là, refus de la rupture. Puis même, on a vu que le moment où la personne, où l'homme apprend que la rupture est définitive, puis que là, il n'y a plus de moyen de reprendre la relation. On a une fenêtre de quelques jours à quelques semaines, peut-être quelques mois, mais c'est là le pic de la dangerosité. Donc, c'est très important d'être attentif et attentif, dans le fond, à nos proches, aux hommes en particulier qui vivent des ruptures et lorsqu'ils refusent la rupture. Ce qu'on va voir aussi apparaître comme autre facteur de risque très important, c'est un accroissement de la sévérité et de la fréquence, puis même de la diversité des formes de violence. Donc, il y avait un problème de violence, mais là, on ajoute des enjeux de surveillance, de jalousie et même de surveillance obsessionnelle. On va parler de contrôle, par exemple, d'appeler 50 fois, 200 fois dans la conjointe dans la journée, de commencer à la suivre, de commencer à surveiller, de commencer à. Et donc, quand on a séparation, avec refus de séparation, plus accroissement de la sévérité, de la fréquence, de la violence, comprenant des formes justement de jalousie, par exemple, ou de contrôle, ou de tentatives multiples et désespérées de reprendre la relation, on a déjà deux des principaux facteurs de risque. S'ajoute à celui-là les signes de dépression et les idées suicidaires, qui sont aussi un facteur de risque très, 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 très important. Et fait que quand on ajoute celui-ci, puis évidemment, ben, si on a affaire plus aux victimes, la crainte de la victime pour sa vie. On peut avoir une femme qui a vécu plusieurs incidents de violence conjugale pendant des années, mais là, au moment où là, elle dit, mais là, j'ai peur pour ma vie, on a là un facteur de risque particulièrement déterminant. Je dis beaucoup à l'attention de nos collègues dans les services de police qui, des fois, disent, sont appelés plusieurs fois sur un lieu en violence conjugale, être attentive et attentif à ce moment-là où, cette fois-là, la victime vous dit, j'ai peur pour ma vie. Ben, est-ce qu'on peut se mobiliser là pour. Fait que c'est vraiment les principaux signes les principaux signes auxquels on doit être attentive et attentif. Puis là, à ce moment-là, ça presse de demander de l'aide. C'est urgent d'appeler les ressources pour. Ben, je suis inquiet pour un proche, je suis inquiet pour ma famille, je suis inquiet pour mon beau-frère, pour ma belle-sœur, de se tourner vers les services d'aide rapidement, que ce soit les maisons d'hébergement ou les ressources du réseau à cœur d'homme, ou éventuellement les services de police, pour être en mesure de prévenir un passage à l'acte.
OK, fait que ça, c'est vraiment comme les signes qu'on devrait remarquer ou être le plus alerte possible, justement, pour nous-mêmes en tant que témoins, ou si on reçoit un dévoilement, justement, on appelle, puis là, on se dit, tu sais, là, c'est sérieux, il y a un risque de passage à l'acte, il y aurait un risque possible d'homicide.
Okay. Refus de la rupture, harcèlement, surveillance, augmentation des formes, de la sévérité et de la fréquence avec des signes dépressifs, là, on a le. Voilà, là. Je répète, il paraît que ça a une vertu pédagogique. Hein?
Le cocktail, là, ensemble.
Mais c'est sûr que ce n'est pas toujours possible de voir ces signes-là. T'sais, j'imagine qu'il doit y avoir, par exemple. Des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler ou à isoler davantage la relation. Donc, c'est plus difficile pour les proches ou le voisinage de voir ce genre de signes-là.
D'où les enjeux sociaux qu'on a de mettre en place davantage d'incitatifs pour les hommes à demander de l'aide, à consulter pour violence, mais aussi pour des problèmes de rupture, puis aussi pour des problèmes de dépression. Puis on a encore du travail à faire avec, par exemple, tout le milieu de la santé, puis les services sociaux, puis pour bien détecter les situations, puis référer vers les ressources appropriées là, en fonction de la dangerosité.
Puis, est-ce que selon vous, ben, je peux te lancer la question aussi encore à toi, Mario, mais est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une augmentation réelle des cas d'homicide conjugaux ou c'est plus que c'est davantage médiatisé depuis quelques années?
Un peu de tout ça. Cette année, c'est une. Dans le fond, si on étudie sur 40 ans les homicides conjugaux, d'abord, on peut dire qu'il y a des bonnes nouvelles. C'est un peu bizarre de la façon dont je le dis, mais ça a quand même diminué de moitié en 40 ans au Canada. Et on pourrait aussi dire qu'au Québec, on est la province canadienne, puis probablement l'État en Amérique du Nord où il y a le moins d'homicides conjugaux par habitant. Et ça, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on a mis en place un réseau, puis on est très sensible à cet enjeu-là. Donc, puis on a mis en place un réseau d'aide qui est meilleur qu'ailleurs. Ça ne veut pas dire que tout le chemin est fait, là. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais on peut déjà partir de ce constat-là. Et quand on étudie les homicides conjugaux, bien, on se rend compte que il y a en moyenne une douzaine, 10 à 12 cas par année au Québec. Mais il y a des années où il y en a 20, puis il y a des années où il y en a 8. Là. Fait que c'est très difficile. On est mieux d'étudier ça sur une période de 5 à 10 ans. C'est difficile de parce qu'il y a relativement peu de cas là, en termes de. On s'entend bien, là, c'est toujours trop de cas, mais en termes de capacité à mesurer là, d'une année à l'autre, qu'est-ce qui fait qu'il y a une incidence? Et là, on peut juste être dans des hypothèses cette année en lien avec le stress, en lien avec la pandémie, en lien avec la dépendance économique entre les conjoints parce qu'on est obligé d'être. Bon, et là, je dis n'importe quoi, là, je pourrais ne rien dire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas nécessairement, on verra l'année prochaine, c'est pas nécessairement, il y a eu des années déjà où il y a des taux plus élevés et c'est difficile de savoir pourquoi cette année-là. C'est pour ça qu'on a tendance à l'étudier sur des périodes plus de 5 à 10 ans. Je sais pas si ça répond bien à la question.
Oui, ben j'en comprends que c'est difficile de dire avec exactitude s'il y a vraiment un effet. Une hausse aussi, c'est aussi parce qu'on en parle plus, là, donc on va le voir, j'imagine, dans quelques années.
C'est tout à notre honneur, je trouve, comme société. Ce n'est plus, il y a 30 ans, c'est un fait divers. Ce n'est plus un fait divers, un homicide conjugal ou un homicide ou un filicide. Ce n'est plus un fait divers au Québec. On ne tolère plus ça. On dit non. Et pour moi, il y a quelque chose de très, très, très encourageant là-dedans. Et dans le fond, oui, on en parle plus, certainement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a plus, mais on en parle plus. Là.
Mm-hmm. Merci de nous avoir éclairé là-dessus. Sinon, pour poursuivre. En termes d'intervention que vous faites là, dans vos milieux, que vous évaluez avec votre projet, c'est quoi les cibles là, ben, vraiment précises, les principales cibles d'intervention et de prévention? Je sais que j'ouvre un gros sujet, là, mais c'est quoi, mettons, les grandes lignes de ce que vous faites ou de ce que vous évaluez qu'il faudrait faire davantage, vous recommandez au milieu?
Ben, je peux me lancer, Audrey, puis tu viendras compléter avec tous les facteurs de risque que la recherche permet d'identifier là, et auxquels dont on doit tenir compte dans nos plans d'intervention. Mais dans le fond, la première étape, comme je disais, c'est d'amener les gens vers les services. Fait qu'il y a des mesures sociales, puis de collaboration, puis de partenariat. La deuxième étape, quand on reçoit les gens, ben, c'est de s'assurer que les personnes reconnaissent leur comportement de violence, puis reconnaissent leur responsabilité. Ça a l'air un peu bizarre ce que je dis là, mais dans le fond, il y a un niveau élevé probablement de déni, hein, parce que c'est stigmatisant. On ne veut pas être identifié comme homme violent, comme batteur de femmes, comme bon. Et donc, on a travaillé avec cet enjeu-là. Fait qu'avec nos questionnaires, on a plusieurs questions. Fait que certaines personnes vont se retrouver, vont peut-être dire, moi, non, ça, je ne dirais pas que j'ai craché dans la face de ma femme, mais je veux dire que j'ai crié après puis que je l'ai serré par le bras parce que c'est socialement plus bon. Et on a suffisamment de questions pour faire en sorte que les gens vont être en mesure de se sentir à l'aise pour répondre. Parce que ce qu'on veut à ce moment-là, là, c'est le cœur de notre affaire, nous autres, c'est de responsabiliser les gens puis qu'à la fin, il n'y ait plus de comportement de violence. Hein. Ça, c'est très clair et c'est ça dans tous les cas qu'on rencontre. Maintenant, comment le faire? Ben, on a à travailler d'abord une première étape de réappropriation de la demande d'aide. Les gens sont souvent référés soit par la DPJ, le système judiciaire, par la conjointe qui a dit, ben, si tu continues, je te quitte, ou bon, par peu importe. Donc, amener les gens à nommer les gestes de violence, à en voir la répétition, à voir les impacts. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a plusieurs de nos clients la majorité ont mal mesuré les conséquences de leurs gestes de violence. Soit parce que la victime a tellement peur qu'elle ne dit plus les impacts que ça a sur elle, soit que la personne n'est plus à l'écoute, mais il y a vraiment une minimisation de l'impact des gestes de violence sur les enfants. Combien de clients je reçois ou de clientes qui disent, ouais, mais les enfants dormaient. Écoute, vous me dites il y a des gestes, des moments de chicane, puis vous dites de la chicane, mais moi je vois qu'il y a des cris, puis il y a de la violence à tous les jours. Et là, les enfants ne sont pas témoins. Bon, et là, on regarde la liste bon, est-ce que vos enfants présentent des signes, par exemple, de difficultés scolaires, difficultés de concentration, d'énurésie? Bon, on a tout. Et là, les gens souvent se waouh, waouh. Et bon, donc, reconnaître les impacts négatifs pour les autres. Mais pour eux aussi, à moyen puis à long terme, souvent les êtres humains, on regarde l'impact de nos gestes à court terme pour nous. Mais non, on élargit. Donc, c'est tout un travail qu'on souhaite les amener à se réapproprier la demande d'aide en voyant leur part de responsabilité. Puis, dans certains cas, il faut déconstruire aussi déjà certains mythes sur l'impulsivité. Moi, je me souviens d'un client qui me disait, ben, c'est pas de ma faute, c'est mon bras qui a déplié. Et mon Dieu! Fait que ça parle de la capacité de mentalisation, comme je disais, de certains de nos clients, là. Lui, c'est son bras qui dépliait, là. Fait qu'il y a tout un travail à faire pour, ouais, ben, derrière, là, il y a peut-être des pensées puis des émotions. En tout cas, il y a tout un travail comme ça d'exploration. On est, nous, des accompagnatrices et des accompagnateurs dans ce changement-là. Et par la suite, ce qu'on veut formuler, c'est vraiment, on veut que la personne formule une demande d'aide précise en lien avec le problème de violence. Donc, j'accepte d'être accompagné pour modifier mes comportements. Et des fois, on l'a dès le début, puis des fois, ça peut prendre quelques mois où la personne, il y a un moment où on va atteindre le point où on va dire à la personne, à partir de maintenant, tu me dis qu'il y a juste des impacts négatifs à ta violence, en tout cas, qu'il y a beaucoup plus d'impacts négatifs, es-tu prêt à partir de maintenant à cesser toute forme d'usage de violence? Et on fait ça en individuel, mais plus souvent en groupe. Ça a un gros impact, là, cet engagement-là. Puis de cet accompagnement-là. Et de là, donc, le point de départ, c'est de pratiquer, de continuer à consolider les temps d'arrêt. Parce que pour changer des habitudes, faut faire des temps d'arrêt. Il faut être capable de reconnaître des signes avant-coureurs, que ce soit le déclencheur chez l'autre, mais ça peut être des indices à l'intérieur de soi, au niveau émotion, au niveau pensée, au niveau comportement, au niveau sensation physique, être capable de dire, oh, là, je prends une pause. Bon, et là, contenez. Et là, c'est souffrant, puis c'est là qu'on a du plaisir dans l'intervention, parce que là, ils sont obligés de contenir, ils font un temps d'arrêt, fait que là, ils sont plus capables de se décharger sur l'autre, de prendre le... Non, non, ils contiennent. Fait que là, c'est le fun, là, parce que là, on va aller chercher des émotions, là. On va passer des émotions secondaires aux émotions primaires, là. Ah, ben là, ça devient le fun, là. Et là, c'est tout le travail qu'on fait après ça d'accompagnement, justement, de réappropriation des émotions, de connecter ça avec des besoins. Et là, après ça, on va regarder puis les accompagner dans des modalités différentes d'expression. Mais vous comprenez qu'on ne commence pas par travailler les habiletés de communication. C'est à la fin, là. On commence par travailler les arrêts d'agir et accompagner les personnes là-dedans, puis de réappropriation, puis de connaissance de soi, finalement. Fait que c'est un petit peu ça, le processus. Puis bien sûr, on reçoit des gens qui sont à l'étape où la reconnaissance du problème est très faible. Hein? Des gars qui arrivent dans mon bureau en disant « Ouais, ils m'ont dit de venir ici, là. » Ça, c'est notre point de départ. Et d'autres qui vont arriver en disant « Ah, je me sens assez coupable, je ne veux pas perdre ma conjointe, puis j'ai fait du mal à mes enfants, puis là, on a des gens qui pleurent, puis bon. » On a vraiment de tout. Et le secret, la base, c'est la même chose qu'en relation d'aide partout, c'est de commencer à créer un lien avec la personne. Comme partout ailleurs, c'est l'alliance thérapeutique qui est notre point de départ. Après ça, bien sûr, c'est tout le travail d'accompagnement, mais le point de départ, puis j'insiste là-dessus, parce qu'on a des clients qui sont pas si faciles, c'est pas toujours si facile pour tout le monde de dire « Ah, ben voici un bel être humain que je vais accompagner », quand le gars arrive en disant « Ben ouais, mais c'est de la merde vos hosties de service, puis je suis obligé d'être là, puis combien ça coûte? » Fait que faut aller voir l'être humain, là, faut avoir toute la splendeur de l'être humain en dessous de la ligne de flottaison du iceberg. Là.
Moi, j'ajouterais, sans lien avec ce que tu viens de dire, Mario, que comment notre recherche aide un petit peu, tu sais, les organismes à faire ce travail-là, c'est que notamment, nous, on aide à identifier certains facteurs de risque, tu sais, qui sont associés dans l'historique de chaque personne à sa perpétration de violence, non pas pour qu'ils justifient ses gestes, mais plutôt pour identifier, tu sais, des forces sur lesquelles ils peuvent s'appuyer, puis des cibles d'éléments à transformer, à changer, tu sais, puis notamment la régulation des émotions, puis les habiletés de communication, ça demeure des choses là, qui vont sortir très, très, très souvent. Donc, ça vient appuyer aussi là, les cibles qui sont évoquées là, par Mario dans le travail clinique. Puis on a un autre volet qui s'en vient, où est-ce qu'on va regarder les prédicteurs de l'abandon, c'est-à-dire ceux qui arrivent, mais qui sont comme pas capables de continuer. Là, on va essayer d'aller voir c'est qui ces gens-là qui viennent au début, mais qui ne continuent pas dans les services, qui quittent, pour essayer de voir comment on pourrait davantage favoriser leur engagement dans le travail thérapeutique, parce que malheureusement, ça arrive encore. Des gens qui commencent puis qui ne complètent pas le suivi. Puis on a un autre volet où est-ce qu'on veut regarder comment, quand ils font le travail thérapeutique, comment ils changent aussi. Est-ce qu'ils s'améliorent au niveau de leur empathie? Est-ce qu'ils s'améliorent au niveau de leur régulation des émotions? Puis est-ce que ces améliorations-là sont associées à une diminution de la perpétration des gestes de violence? Donc, nos travaux vont permettre de venir aussi appuyer beaucoup les éléments qui sont des cibles d'intervention dans les milieux.
Oui, parce que c'est pas des programmes mur à mur. Chaque plan d'intervention doit être construit en fonction des facteurs de risque spécifiques de cette personne-là, qui sont pas nécessairement les mêmes chez l'autre. Fait que c'est très, très aidant là, d'avoir toutes ces dimensions-là qui viennent nous accompagner dans la construction de plans d'intervention et de construction de quels facteurs de protection vont être nécessaires pour contrebalancer tel autre facteur de risque qu'on a réussi à identifier à travers la recherche.
Justement, les données ont éclairé déjà quelques nouvelle piste, à ce que j'entends, ça a déjà nourri quelques différences dans les interventions?
J'allais te laisser répondre, Audrey. Là, je regarde Audrey, excusez.
Mais moi, je pense que notamment, il y a des équipes qui sont maintenant plus sensibilisées au rôle de l'attachement, ce qui permet de peut-être des fois comprendre la différence entre l'émotion primaire de surface qui est comme la colère, mais qu'en dessous, il y a vraiment le sentiment, la peur d'être abandonné qui est présente puis qui vient avec le besoin d'être rassuré. Le fait que nous, on offre de la formation aussi dans ce sens-là a permis d'aider certains intervenants à faire un peu ce lien-là. L'attachement aide à comprendre un des mécanismes par lesquels on peut expliquer là, la perpétration de violence. Notamment tes travaux à toi, Francis, quand tu as parlé de la présence attentive, il y a des milieux qui ont trouvé que c'était pertinent justement d'enseigner ces habiletés-là dans leur travail clinique pour aider les gens qui ont de la difficulté à s'arrêter, là, qui n'ont pas cette capacité-là de faire une pause puis d'être dans l'instant présent puis qui sont constamment envahis là, par les émotions, les pensées qui se bousculent pour eux. Donc, déjà, il y a des petits pas, des petites choses qui se font. On pense à travers les webinaires, à travers les résultats de recherche. Puis des fois, il y a des intervenants qui me disent « Ah, j'ai utilisé le résultat de ton étudiante, par exemple, qui parlait de l'intimidation. » Puis donc, moi, quand j'entends ça des intervenants, je pense que c'est une de mes plus belles récompenses du travail qu'on fait ensemble.
OK. Fait que selon ce qui résonne, chaque organisme décide de garder, d'utiliser, d'expérimenter avec les formations qu'ils reçoivent, puis les variables, les concepts qu'ils apprennent à manipuler.
J'avais une question pour vous aussi. Pourquoi c'est important et même primordial, selon vous, d'impliquer les hommes, en fait, dans la prévention ou dans le traitement des violences conjugales?
Je peux peut-être commencer, puis tu continueras, Mario. C'est une question qui me touche beaucoup. Je commencerai par dire parce que c'est pas la faute des victimes. C'est la première chose qui me vient quand j'entends cette question-là. Puis on parle toujours de c'est super important d'accompagner les victimes, de les aider, tu sais, à se remettre, à se rétablir, tout ça. Mais si on veut que la violence cesse, il faut que les auteurs fassent partie de la solution aussi. Donc, il faut accompagner ces personnes-là qui commettent ces gestes-là pour les aider à faire autrement, à comprendre, réaliser que ces comportements-là ne sont jamais acceptables. Même s'ils ont toute une détresse, tu sais, puis qu'il y a plein de raisons qui nous permettent de comprendre pourquoi, mais c'est jamais acceptable. Donc, comment on peut les accompagner pour qu'ils changent leur façon de faire, pour qu'ils reconnaissent, comme tu disais, Mario, tu sais, les signaux que ça s'en vient, puis comment on peut leur enseigner à faire autrement, puis à mieux réguler leurs émotions. Pour moi, c'est une grosse partie de la solution que d'intervenir auprès de ces auteurs-là. Puis dans la prévention, j'ajouterais que plus on en entend parler, plus entre nous, on devient un peu des témoins actifs, là, tu sais, un petit peu comme pour la violence sexuelle, tu sais, de dire « Hey, ça, c'est pas acceptable. Hey, ça, tu sais, c'est important d'être respectueux. Ah, on parle pas comme ça des femmes, on parle pas comme ça entre nous, mais on parle pas comme ça des hommes non plus. » Tu sais, je pense que chaque être humain mérite le respect, mérite, tu sais, d'être bien traité physiquement et psychologiquement, puis que c'est clair pour moi là, qu'il faut travailler à tous les paliers d'intervention pour prévenir cette problématique-là qui est si grave et douloureuse pour les victimes, mais aussi pour toutes les familles autour.
En complément, on sait que, par exemple, si on se fie juste à la judiciarisation des cas, d'abord, il y a encore un faible, c'est peut-être 25-30% des victimes qui vont bénéficier d'appeler la police ou donc où les cas vont être judiciarisés. Et si on regarde juste, par exemple, une recherche il y a quelques années en Belgique où ils ont expérimenté dans différentes régions en même temps, quand il y a juste la judiciarisation, mais quand il y a aussi de l'accompagnement psychosocial. Et c'est très clair que s'il y a juste la judiciarisation, les taux de succès sont modérés, c'est le moins qu'on puisse dire, là, sinon faibles. Donc, les taux de récidive sont élevés. Et ce qui est gagnant, dans le fond, les cas où on a besoin de judiciariser, mais c'est aussi d'avoir un accompagnement psychosocial et que des taux de succès sont beaucoup plus élevés à ce moment-là. Là. Fait que c'est très clair qu'on ne peut pas juste penser de dire, ben, c'est la police qui va régler cet enjeu-là. Ça prend plus que la police, là.
C'est vraiment intéressant comme étude. Je suis content qu'on l'aille enregistrer, ces résultats-là. Maintenant, je vois le temps filer. J'aimerais ça clore avec vous entendre tous les deux sur quel message important qu'on veut lancer vers le commun des mortels, là, mais qui reste encore méconnu par la population sur la violence conjugale qu'on voudrait transmettre aujourd'hui là, aux gens.
Moi, je pense que Mario et moi, on va être d'accord, mais tu pourras compléter pour dire que ça commence très tôt, la prévention de la violence. Ça commence dès l'enfance. Donc, dans la façon dont on enseigne à nos enfants que c'est acceptable ou non acceptable d'agir d'une certaine façon envers ses parents, envers ses frères et sœurs, envers les amis à l'école. Il y a énormément de travail qui peut être fait aussi dans la reconnaissance qu'on a le droit d'avoir des émotions. On a le droit d'avoir de la peine, puis qu'on n'a pas à tout refouler ça pour être fort et solide. Moi, je pense que si on enseigne très tôt qu'il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, puis que pleurer, ça n'en est pas un, tu sais, puis qu'on enseigne les enfants à réguler leurs émotions, à comprendre comment ils se sentent, je trouve qu'on met déjà les jalons vers beaucoup d'éléments de prévention de cette violence-là future. Toutes les notions, bien sûr, de respect de l'autre, peu importe son genre, sa provenance, son orientation sexuelle. Donc, peu importe, l'acceptation de la différence aussi fait partie de la solution. Mais on commence jamais assez tôt, je pense, à enseigner ça à nos enfants, à nos adolescents, à nos jeunes adultes aussi qui vont commencer des relations amoureuses. Pour moi, c'est vraiment un message qui me touche beaucoup, là, puis que je me trouve privilégiée, en fait, de pouvoir contribuer aux efforts qui vont aller en ce sens-là.
Alors, on va changer le monde, Audrey. Moi, je vais dans le même sens exactement qu'Audrey. Puis je vois bien, je vois tellement les impacts justement de ces carences-là ou des abus ou des traumas. Je vois tellement les impacts durables sur des années de vie que je peux pas aller. Puis c'est tellement dur. Alors, c'est faisable à l'âge adulte. On peut changer à tout âge, mais c'est tellement plus difficile que si on arrivait à les prévenir dans l'enfance. Je vais tout à fait dans le sens d'Audrey. Puis j'ajouterais aussi la représentation nuancée un petit peu de je pense qu'il faut être un peu plus inclusif dans les prochaines années. On a une image stéréotypée des fois de la violence conjugale où la victime est une femme blanche hétérosexuelle c'est une vision qui nous amène des fois à négliger certaines populations, que ce soit les hommes victimes ou les femmes qui ont des comportements violents, les personnes LGBTQ plus, et donc d'avoir une représentation un petit peu plus inclusive là, en lien avec les personnes qui peuvent être confronté à la problématique, là.
Génial. Bien, je vous remercie beaucoup, Audrey et Mario, pour votre présence aujourd'hui sur le podcast. C'était fort intéressant de vous entendre. J'en aurais pris plus, mais bon, on peut pas prendre plus de votre temps. Donc, je vous remercie beaucoup encore, puis j'espère, chers auditeurs et chères auditrices, que vous aurez apprécié autant que, tant que moi, ce podcast.